RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Martin Gaz.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
À la une, ce nouvel échange de prisonniers et d'otages entre Israël et le Hamas.
4 soldats israéliennes contre plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens. C'est le deuxième échange de ce type en une semaine dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve entre l'État hébreu et le Hamas. Nous serons en direct de Jérusalem dès le début de ce journal.
En République démocratique du Congo, situation alarmante autour de Goma.
Les combats continuent entre le M23 et l'armée congolaise autour de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence à ce sujet ce lundi. Aux États-Unis, l'administration Trump veut expulser 1 million de sans-papiers par an. Le Mexique se dit ce matin prêt à coopérer pour accueillir ses citoyens expulsés. Tout pour le bambou à Mayotte, matériau local de secours pour reconstruire le département français après le passage de l'ouragan Chido. Et de l'amour pour terminer, Amour Suprême, nouvel album du rappeur Youssoupha.
4 soldats israéliennes contre plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens placent ce samedi à un nouvel échange entre l'État hébreu et le Hamas.
Échange dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve entré en vigueur la semaine passée. Il s'agit du deuxième échange de ce type. Dimanche dernier, 3 israéliennes avaient été libérées contre 90 prisonniers palestiniens. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Jérusalem, Nicolas Falaise. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors si on ne connaît pas le nombre exact de prisonniers palestiniens qui doivent être libérés, l'identité des 4 jeunes femmes israéliennes qui vont être lâchées a en revanche été dévoilée.
Oui, on l'a appris hier soir. Elle s'appelle Liri Albag, Karina Ariev, Daniel Gilboa et Naama Levi. Elles sont âgées de 19 à 20 ans. Ce sont 4 soldates israéliennes qui effectuaient leur service militaire au moment des attaques du 7 octobre 2023. Elles ont été enlevées sur la base de Nahaloz, où elles étaient affectées durant leur service militaire à la surveillance de la bande de Gaza. Début janvier, tout récemment, l'une de ces 4 jeunes femmes, Liri Albag, est apparue en vie dans une vidéo d'otage diffusée par le Hamas. Alors ce samedi, effectivement, les 4 israéliennes doivent être en principe remises par leur ravisseur au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui à son tour doit les remettre à l'armée israélienne. Cette chorégraphie très précise que l'on a observé dimanche dernier lors du premier échange de cet accord. Et de même, aujourd'hui, un nombre encore inconnu de prisonniers palestiniens doivent être remis en échange par Israël, en vertu donc du cessez-le-feu, dont l'application a débuté le 19 janvier dernier. On est dans la première phase de l'application de ce cessez-le-feu qui doit en tout durer 6 semaines.
Merci beaucoup Nicolas Falaise, en direct de Jérusalem sur RFI.
Israël demande par ailleurs à l'UNRWA de faire ses valises et de quitter Jérusalem.
Ultimatum donné pour le 30 janvier, c'est-à-dire ce jeudi, en accord avec le vote d'octobre dernier au Parlement israélien, vote interdisant l'action de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens sur le territoire israélien, y compris à Jérusalem-Est. Une requête envoyée ce vendredi au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Israël, qui accuse l'UNRWA d'héberger des membres du Hamas.
L'ONU, justement, en alerte. Le Conseil de sécurité se réunira en urgence ce lundi pour évoquer les combats dans l'est de la RDC.
Des combats que fuient plus de 400 000 déplacés dans le Nord Kivu depuis le début du mois de janvier. Un chiffre avancé par l'ONU, alors que d'intenses affrontements opposent toujours le M23, soutenu militairement par le Rwanda et l'armée congolaise, appuyé par des unités d'élite des casques bleus des Nations Unies. Des combats qui ont lieu près de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, notamment à Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest, mais aussi sur un deuxième front, plus au nord, à Kibumba, une situation qui inquiète la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, notamment sa porte-parole, Kadilo.
Au Nord Kivu, la MONUSCO rapporte que des affrontements violents persistent entre le M23, les forces armées de la République démocratique du Congo et d'autres groupes armés, notamment près de Sake, une ville proche de Goma. Les positions défensives de la MONUSCO et des FRDC déployées et maintenues dans cette zone dans le cadre de l'opération Springbok sont donc sous pression. Le 21 janvier dernier, des combats à Bouemera ont fait au moins 10 morts, entraînant des déplacements massifs dans la province du Sud Kivu, ainsi que vers Goma et Rusayo. Par ailleurs, des échanges de tirs de mortier continuent de menacer les populations déplacées dans les sites autour de Goma et de Sake. Vous savez, il y a environ plus de 2,8 millions de personnes qui ont été déplacées depuis le début de la crise. L'ONU réitère qu'il est impératif que le groupe armé M23 dépose les armes et respecte le cessez-le-feu en place depuis le 4 août. La MONUSCO exhorte également toutes les parties à rester engagées dans le processus de Luanda que nous soutenons.
Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, qui répondait à Pauline Azidi.
RFI, 9h05 à Minsk, la Biélorussie qui s'apprête à voter élection présidentielle ce dimanche.
Et qui s'apprête certainement à réélire Alexandre Loukachenko, autocrate à la tête du pays depuis 30 ans et qui brigue un 7e mandat. Grand allié de Moscou, le président biélorusse de 70 ans qui veut rempiler pour 5 ans. 4 autres candidats se présentent face à lui. Le dernier scrutin en 2020 avait été marqué par une très forte répression face à une opposition qui a fait vaciller le pouvoir. À Minsk, notre envoyé spécial Anis Al-Jabri a rencontré des électeurs légitimistes toujours présents, alors que les contestataires sont très inquiets.
À la vue d'un micro étranger, souvent un geste de refus, sans parole, quant aux questions sur les élections.
Aucun commentaire malheureusement, j'ai bien mon opinion, mais je ne la donnerai pas tant que je suis dans ce pays. Même là, quand je vous parle, je fais attention, je ne sais pas très bien qui pourrait entendre mes paroles. C'est comme ça qu'on vit ici, on ne peut pas être nous-mêmes.
Un homme rencontré dans les rues de Minsk dit avoir vu, après 2020, la moitié de son cercle d'amis quitter le pays. Lui, c'est certain, ne se déplacera pas pour aller voter.
Il n'y a aucun choix. Les candidats face au président ne sont pas des gens qui veulent changer quoi que ce soit. Ils sont juste là pour créer une illusion de compétition, rien de plus. Je pense que le climat global déclenche beaucoup de tristesse chez les gens.
Le pouvoir, lui, fait tout pour mobiliser, notamment les jeunes. Ce vendredi après-midi, au siège de la commission électorale, était organisé un tournoi de jeu. Plusieurs jeunes attablés pour une forme de jeu de loi où chacun tente de faire gagner son candidat.
Moi, j'ai pris le personnage d'inspecteur de police. J'ai toujours voulu travailler dans les forces de l'ordre, alors j'ai décidé d'avoir ce métier, au moins dans le jeu. Et puis, ça veut dire avoir dans son programme un renforcement des mesures anticorruption, une augmentation du budget des agences de sécurité, une implication de la société civile dans la surveillance dans les régions. Je crois que ce sont des sujets importants pour tout le monde.
Depuis des mois, les services de sécurité biélorusses évoquent un complot occidental à l'œuvre contre le scrutin. Anis Al-Jabri, Minsk, RFI.
RFI Matin. Donald Trump à la conquête de l'Ouest. Le président américain est en visite en Californie.
Oui, il a fait un tour d'hélicoptère pour constater les dégâts des incendies à Los Angeles. Le milliardaire républicain qui a aussi rencontré des sinistrés et qui a menacé cet État historiquement démocrate en conditionnant notamment l'aide fédérale pour la reconstruction à une bonne collaboration avec les autorités, surtout en matière d'immigration. Les sans-papiers, ennemis déclarés de la nouvelle administration Trump, qui met en scène l'arrestation et l'expulsion de migrants en situation irrégulière. L'objectif est fixé à 1 million d'expulsions par an, notamment vers le Mexique, qui se dit ce matin prêt à coopérer. Le pays qui a lancé le plan « Le Mexique vous embrasse ». Nous accepterons à bras ouverts l'arrivée de Mexicains sur notre territoire, dit le ministre des Affaires étrangères. Et 9 lieux vont être construits, dont un au Chihuahua. Correspondance, Gwendolina Duval.
À Ciudad Juárez, la municipalité est en train de monter un refuge temporaire, annoncé depuis des semaines, situé à El Punto, tout près du mur et d'un des stades de la ville. Il s'agit d'une grande tente, capable d'accueillir jusqu'à 2500 personnes. Son objectif est d'orienter les migrants de retour des États-Unis et de leur trouver si besoin une place dans l'un des 30 refuges que compte la ville. Les autorités locales ont précisé que ce dispositif était réservé aux expulsés de Donald Trump, qu'ils soient mexicains, mais aussi, au moins temporairement, d'autres nationalités, principalement d'Amérique du Sud. Sud ou d'Amérique centrale. Le Mexique ne veut pas être un pays tiers qui accueillerait tous les migrants, mais la présidente Claudia Sheinbaum a déclaré qu'il pourrait tout de même recevoir les ressortissants d'autres pays et prévoir leur rapatriement volontaire. La frontière du Mexique craint d'être rapidement saturée si les expulsions massives avaient lieu. Le programme Quédate en México, traduisait Reste au Mexique, qui avait déjà été mis en place en 2019 et qui vient d'être restauré par Donald Trump, avait rempli les refuges de la frontière en obligeant les personnes à attendre sur le territoire mexicain pendant tout leur processus de demande d'asile aux États-Unis. Gwendolina Duval, Ciudad Juárez, RFI.
En France, Mayotte entame sa reconstruction à grands coups de bambou.
Ah oui, Mayotte dévastée par le passage du cyclone Chido en décembre qui a fait au moins 39 morts. Et face aux nombreuses destructions, le lycée agricole de Coconi est à pied d'œuvre et reconstruit notamment ses serres avec du bambou, une solution locale, solide et peu coûteuse pour les agriculteurs mahorais. L'entreprise Lilo Bambou a même créé un atelier spécial reconstruction, atelier qu'a visité notre correspondante Lisa Morisseau.
Sous un soleil écrasant, l'équipe s'active pour construire une charpente en bambou. Elle couvrira le futur atelier où la matière sera stockée, séchée et transformée. La ressource est présente en abondance sur l'archipel. Louis Dossal, co-gérant de l'îlot bambou.
Il faut savoir qu'il y a à peu près 1% du territoire qui est couvert par des bouquets de bambou sur Mayotte.
Le cyclone Chido a donné un nouvel élan pour créer la filière.
Aujourd'hui, il y a eu besoin de matériaux de construction tout de suite. Et vu qu'on avait ce matériau directement disponible, voilà, on est très sollicité aujourd'hui pour faire des constructions en bambou.
À Mayotte, la majorité des matériaux sont importés. Pourtant, selon l'architecte Thibaut Funkwakshin, le bambou permet de limiter les coûts, de diminuer l'empreinte carbone et de développer une économie locale. Pour lui, la catastrophe qu'a subi le territoire doit servir de déclic.
Le cyclone Chido, il a vraiment donné du sens à ce projet, parce que c'est vrai qu'une fois que tout est cassé, que tout est rasé, on est un peu livré à nous-mêmes ici sur les insularités. Ça prouve justement qu'il faut qu'on arrive à développer nos capacités de résilience. Il faut qu'on arrive à se débrouiller par nous-mêmes.
Mais les résistances à son emploi sont nombreuses. En architecture, son utilisation n'est pas encadrée par une règle professionnelle. Il existe aussi des freins culturels. Les Mahorais le considèrent comme un matériau du passé et lui préfèrent le béton. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Et puis Martin, puisqu'on a tous besoin d'amour, on termine avec l'album Amour Suprême.
Rien à voir avec la chanson de Robbie Williams, je vois déjà la fredonner Julien. Il s'agit du nouvel opus de Youssoupha, de retour après 3 ans de silence. L'album de la maturité pour le rappeur natif de Kinshasa, album dédié à sa petite fille notamment. Amour Suprême qu'a écouté Olivier Roger. Olivier Roger, sous le charme.
À nos périodes de dépression où on n'osait pas le dire, à tous les mensonges qu'on a répétés encore, à toutes nos guerres, nos désaccords, à tout l'oseille liquidé dans l'alcool.
Difficile de ne pas tomber amoureux d'Amour Suprême. Dès la première écoute, l'originalité, la poésie et le lyrisme du nouvel album de Youssoupha sautent aux oreilles. À 45 ans, le fils du géant congolais Taboulé Rochereau n'hésite pas à affirmer que ce nouveau projet est l'un des plus importants de sa vie. Il l'a d'ailleurs accompagné d'un documentaire d'une heure consacré à la fabrication de l'album.
Un peu imparfait. Dans le chant, quand il y en a des fois qui mettent des notes un peu trucs, c'est pas ça. Mauvais aussi, il faut pas forcer le truc. Et je veux pas non plus qu'on fasse 800 000 prises, ouais. Parce que sinon après on va intellectualiser, ça va devenir mathématique.
On découvre au fil des 13 pistes le travail des beatmakers comme Zafi et des compositeurs comme Jean Jass. Youssoupha fait aussi appel à un ensemble de cordes dirigé par le violoncelliste Olivier Koudounou.
J'aime surtout créer des rencontres en musique. Et c'est vraiment ce qui nous amène à la rencontre avec Yous.
Amour Suprême est l'album d'un artiste arrivé à maturité, à la fois examen de conscience, retour sur le passé et hommage à ceux qu'il aime, à commencer par sa fille, à qui il dédie cette valse intitulée « Dieu est grande ».
Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne, j'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition, la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde, Dieu est infini. Et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron.
Et c'est que le daron Youssoupha se referme ce journal. Je vous laisse avec le petit père de la matinale, Julien Coquel-Rouhem. Vous en avez de la chance.
Lourde responsabilité. Merci Martin Gaz, à tout à l'heure. Et tout de suite, le journal des sports avec vous, Christophe Diremzian. Du tennis, la finale féminine de l'Open d'Australie approche à Melbourne. Et la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, va tenter la passe de 3.
2023, 2024 et peut-être 2025. La Biélorusse n'est plus très loin de réaliser ce que seulement 5 autres joueuses ont réalisé dans l'histoire du tournoi. La dernière en date, c'était Martina Hingis à la fin des années 90. Face à elle, l'américaine Madison Keys, 14e mondiale, tombeuse d'Igaziantec, s'il vous plaît, en demi-finale, victorieuse Adelaide en début de saison. Mais plus vu en finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis l'US Open 2017, douloureux souvenir, car sa compatriote Sloane Stephens l'avait complètement balayé, grosse pression à l'époque, mais le son bien retenu.
La plus grande leçon pour moi a été de prendre conscience qu'il y a beaucoup de moments très inconfortables à vivre dans ce genre de match. C'est stressant, des milliers de personnes vous regardent, vous ne jouez pas votre meilleur tennis. Mais au lieu de fuir la situation et de rechercher d'une manière ou d'une autre à vous rassurer, il faut juste accepter la situation. J'ai énormément travaillé là-dessus et c'est le principal enseignement que j'ai tiré de ma finale à l'US Open. Juste accepter le fait que je vais probablement être mal à l'aise durant 99% du temps sur le court et que malgré tout j'arriverai à jouer mon tennis.
Madison Keys avant sa finale contre Arina Sabalenka, c'est à partir de 8h30 temps universel.
Du football et le match d'ouverture de la 19e journée de Ligue 1 n'a pas souri à Auxerre.
Pas complètement. Match nul un partout à domicile avec Saint-Etienne qui fait la meilleure affaire en cédant son inconfortable rôle de barragiste. Les Bourguignons, eux, font du surplace. 11e, toujours pas de victoire en 2025, mais le milieu ghanéen Elisha Ouassou préfère rester positif. Ce n'est pas bien payé, mais les intentions étaient là.
Un peu de frustration parce qu'on avait à cœur de gagner aujourd'hui à la maison avec nos supporters. Je trouve qu'on a bien commencé le match. Malheureusement, on prend un but. Ça nous est arrivé un peu beaucoup de fois cette saison. On commence bien le match, on prend un but qui nous coupe l'herbe sous le pied. Mais bon, on a montré de belles choses, je trouve. Il y a eu beaucoup d'efforts, on s'est bien battu. Et on va essayer de voir le positif et continuer à avancer. Le coach nous a dit de pousser, de ne pas lâcher, d'y croire. Malheureusement, on n'a pas su gagner ce match. Mais bon, on continue, c'est plus sain au classement et on continue vers notre objectif qui est le maintien.
Elisha Owusu sur DAZN. Trois nouveaux matchs aujourd'hui. Monaco-Rennes, Strasbourg-Lille, Paris-Saint-Germain-Reims.
Et puis la NBA à Paris-Bercy, acte 2.
Indiana Pacers contre San Antonio Spurs. On prend les mêmes et on recommence pour le plus grand plaisir des fans de basket. Les Pacers battus 140-110 jeudi espèrent une revanche contre la franchise texane de Victor Wembanyama, bien sûr, mais aussi d'un autre Français, Sidy Cissoko, 20 ans, encore très peu utilisé depuis son arrivé au club et surtout dans un autre monde et une sacrée machine en coulisses.
Il y a plus de 100 personnes qui travaillent pour nous. Il y a tellement de choses qui se passent en dehors des caméras que les gens ne voient pas, qui ne remarquent pas. Mais après, je pense que toutes les organisations NBA, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qu'on respecte énormément derrière les caméras. Quoi, et ça fait, ils sont là pour nous. Quoi, ils sont là pour nous et les personnes qui vont avoir les matchs des fans NBA. Quoi.
Les gens ne s'en rendent pas forcément compte non plus, mais en fait, vous voyagez tout le temps.
Pratiquement toutes les semaines. Mais à la fin, on s'habitue. Et puis voilà quoi.
Sidy Cissoko avec Victor Misistrano, San Antonio, Indiana. Revanche, 17h, temps universel.
Merci Christophe Diremzian. Et chaque samedi sur RFI, Menace sur l'information, vous faites entendre les voix des journalistes menacés, entravés dans l'exercice de leur métier. Cap sur le Cameroun ce matin, 130e pays sur 180 au classement de Reporters sans frontières qui le décrit comme l'un des pays les plus dangereux d'Afrique pour les journalistes. On se souvient de la mort de Martinez Zogo il y a 2 ans maintenant, mais les journalistes de médias indépendants ne sont pas les seuls touchés, comme le montre l'exemple de Lynn René Batongué, journaliste à la Cameroun Radio-Télévision. Un média d'État qui suit la ligne du pouvoir, elle n'en a pas moins été arrêtée arbitrairement et menacée en 2020. Igor Strauss.
8 novembre 2020, Lynn René Batongué est en reportage dans la localité de Tête d'éléphant, en pleine zone forestière, à l'est du Cameroun. Lettre de mission en poche, elle réalise un reportage sur les bienfaits de la forêt pour les populations locales, quand tout à coup...
Le commandant de la brigade est venu vers nous et il nous a dit, écoute, le préfet a demandé que je vienne vous arrêter. Je lui ai demandé quels étaient les faits qu'on me reprochait. Il a dit qu'il n'en savait pas grand-chose lui-même et il fallait donc que j'aille me présenter au bureau du commandant de compagnie.
Mais au bureau du commandant, toujours pas de motif. Alerté, des collègues journalistes et des défenseurs des droits s'indignent sur les réseaux sociaux de cette arrestation arbitraire. Mise sous pression, les autorités finissent par lui signifier le motif de son arrestation.
Le préfet, en fait, il pensait que moi, je partais pour autre chose parce qu'il était assez impliqué quand même dans l'exploitation illégale des forêts camerounaises.
Lynn René Batongué comprend vite qu'elle n'est pas en sécurité.
C'est clair que quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, on a peur. Et puis, vous savez, quand de gros intérêts sont mis en jeu, ils sont prêts à tout parce que les recettes issues de l'exploitation forestière sont énormes. C'est à coût de milliards d'euros.
Libérée après 2 jours, Lynn René continue d'être victime d'actes malveillants.
J'étais constamment menacée, constamment visitée par des bandits chez moi. Je ne comprenais pas quoi. À un moment, je me suis demandé, est-ce que tout ça n'est pas lié?
Des menaces exacerbées, selon elle, par le fait d'être une femme.
Quand c'est des confrères hommes, on se dit non, ils ont un peu plus de couilles, ils ont un peu plus de courage, donc ils ne peuvent pas. Par contre, quand on voit une femme, on la menace beaucoup plus. Et c'est ça souvent la difficulté avec les femmes journalistes qui se trouvent dans des secteurs à risque. Parce que le secteur environnement est un secteur à risque dans nos pays et donc on reçoit beaucoup de menaces.
Après un autre reportage sur l'exploitation d'une carrière près de Yaoundé, Lynn René Batongué est convoquée par sa direction.
Mon rédacteur en chef de l'époque m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, Lynn, je viens de recevoir plein de coups de fil menaçant à propos, laisse tomber cette enquête. tu as des enfants, tu ne vas pas mettre et ta vie et la vie de tes enfants en danger. Laisse tomber, je t'ai dit. J'ai dit, ok, j'ai entendu. Et j'ai laissé tomber la série.
Les menaces et les pressions, une façon efficace de faire taire les journalistes jusqu'au jour où ils osent témoigner.
Menaces sur l'information avec Igor Strauss.
RFI Matin.
7h20 à Paris, samedi 25 janvier, et une nouvelle étape dans l'accord du cessez-le-feu à Gaza. À la une aujourd'hui, 4 soldates israéliennes retenues en otage par le Hamas doivent être libérées en échange de prisonniers palestiniens, alors que demain la trêve entrera dans la deuxième des 6 semaines prévues de sa première phase. Les armes se sont tues à Gaza, mais c'est désormais un autre territoire palestinien, la Cisjordanie occupée, qui fait la une, alors que depuis mardi, l'armée israélienne mène une opération au sol dans le camp de réfugiés de Jenin, au moins 14 morts selon le ministère palestinien de la Santé. On fait le point ce matin avec notre invité Yosra Frawes, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne avec nous ce matin sur RFI. Vous êtes directrice du bureau Maghreb-Moyen-Orient de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, dont une délégation s'est rendue début janvier en Israël et en Palestine, et notamment en Cisjordanie occupée. Ce déplacement, qu'a-t-il permis de voir et de constater ?
Tout à fait. Une délégation constituée de Alexis Dessoif, vice-président de la FIDH, et Cathy Galliguer, ainsi que des collègues de la FIDH, s'est rendue sur terrain en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et a été témoin, au fait, du retour de la colonisation à perte de vitesse en Cisjordanie, avec l'implantation des colons, l'annexion de terres de Palestiniens, avec des graves tueries qui ont été commises depuis le 7 octobre, au fait, mais c'était malheureusement un angle mort parce que les médias, les observateurs internationaux ne pouvaient pas faire autrement. On était occupés par la catastrophe sans précédent à Gaza, mais on a vu que autour de 900 personnes ont été tuées en Cisjordanie, qu'il y a des milliers de blessés, il y a des milliers de maisons et de quartiers résidentiels qui ont été démolis, et que l'annexion avec les colons extrémiste s'est largement répandu avec des autorisations de la part des autorités israéliennes de construire et de démolir donc les maisons des Palestiniens pour les remplacer par des nouvelles colonies.
Et la Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne mène depuis mardi donc une offensive qu'elle présente comme antiterroriste à Jenin, les Nations Unies ont dénoncé hier l'usage par Israël de méthodes de guerre, d'un recours illégal à la force létale en violation du droit international des droits de l'homme. Cela correspond avec ce qui vous remonte du terrain ces derniers jours ?
Et en effet, l'opération mur de fer lancée par Israël dernièrement, notamment dans le camp de réfugiés de Jenin, a été présentée par les forces d'occupation comme une manière préventive, au fait, ayant tiré le leçon de Gaza. Donc, ils prennent pour cible théoriquement les rebelles dans les camps de réfugiés, mais en réalité, on est en train de suivre avec beaucoup d'attention l'actualité politique israélienne, et on voit très bien qu'il y a des démissions au niveau du gouvernement israélien suite à ce cessez-le-feu à Gaza, alors que les groupes politiques extrémistes israéliens rêvaient réellement de la conquête de Gaza. Donc, en récompense, Netanyahou les assure d'abord en se préservant le droit de reprendre les opérations militaires à Gaza, et il y a une promesse décomplexée qui a été annoncé dans ce sens, mais aussi en ouvrant un autre plan en Cisjordanie. Jenin, nous avons reçu des témoignages de collègues sur place durant cette mission qui nous parlent de l'ampleur de l'arsenal militaire qui a été implanté déjà, et du retrait des forces de sécurité palestiniennes de ces zones-là pour donner un feu vert aux forces israéliennes pour commencer cette cette opération de grande envergure. Et on voit très bien qu'il y a effectivement plus de 14 personnes, mais aussi un nombre de blessés, de plus de 1800 personnes blessées déjà en ces quelques jours.
Et des centaines de déplacés. Vous avez commencé à parler de la violence des colons tout à l'heure. On la voit en pleine recrudescence ces derniers jours, alors qu'avec le retour au pouvoir de Donald Trump, le président américain a décidé de lever les sanctions contre les colons coupables de violence. L'autorité palestinienne accuse Donald Trump de les pousser au crime. C'est aussi votre point de vue ?
Il faut peut-être revenir un peu à l'histoire par rapport aux colons, parce que souvent quand on en parle, on a l'impression qu'on est en train d'évoquer un phénomène isolé de quelques extrémistes. Mais la réalité du terrain nous parle de un demi-million de personnes qui sont implantées dans des territoires des Palestiniens, donc dans des territoires occupés. Et c'est une vraie stratégie qui a commencé après la guerre de 67 par les autorités israéliennes, dans différents objectifs qui sont d'abord et en premier lieu d'empêcher les Palestiniens de créer leur terre ou de reprendre leur terre et donc de créer leur État et donc d'empêcher réellement la libération du peuple palestinien. C'est une stratégie d'implanter des villes entières qui ne permettent pas, au fait, la communication entre les communautés palestiniennes. Et donc, on voit très bien, d'ailleurs dans notre mission, un système d'apartheid qui est mis en place grâce à cette stratégie de colonisation. Et ces colons violents, malheureusement, rappelons-le, ils sont largement bénédits par les autorités israéliennes en place et par l'extrême droite, parce que aussi, il ne faut pas oublier que Smotrich, par exemple, le ministre des Finances, est lui-même un colon. Et donc, il y a une interférence entre les colons extrémistes et le gouvernement en place. On n'oublie pas aussi que les autorités israéliennes, depuis le 7 octobre, ont procédé carrément à l'armement de ces groupes et on dirait que ce sont des milices aujourd'hui qui menacent même nos organisations israéliennes qui essayent de documenter les violences commises sur les Palestiniens et sur les Israéliens qui prêchent la paix entre les deux communautés. Aujourd'hui, quand Trump annule des sanctions contre les extrémistes violents et contre les colons, c'est effectivement un feu vert donné non seulement à ces groupes, mais aussi à l'extrême droite israélienne pour la rassurer que le plan de guerre ne va pas s'arrêter et donc ce qui permettra à ce gouvernement de continuer. Parce que c'est la guerre, malheureusement, qui permet aujourd'hui à Netanyahou de continuer à être le chef d'Israël.
À se maintenir au pouvoir. Tout cela se produit bien sûr dans le sillage de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis bientôt une semaine à Gaza. La FIDH saluait cet accord il y a une semaine, tout en affirmant qu'il n'est qu'un premier pas et que l'heure est désormais à la justice. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur ce qu'il faut faire sur le plan judiciaire aujourd'hui ?
Eh ben, le cessez-le-feu, c'est un vrai répit pour 2 millions de personnes palestiniennes qui ont vécu une destruction massive. Il intervient malheureusement sur un vrai champ de ruines. Cela implique d'abord une urgence humanitaire colossale. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un rythme de 500 à 700 camions qui rentrent à Gaza. C'est en deçà des attentes. Et puis, ça a permis, oui, d'entrer dans des zones qui étaient pendant des mois interdites, mais les besoins de première nécessité, les besoins en matière de soins sont énormes et donc aujourd'hui il y a une vraie urgence médicale, entre autres de faire l'évacuation massive de 110 000 personnes qui ont été gravement blessées pendant ces 15 mois. Mais c'est aussi une brèche qui s'ouvre parce que normalement un cessez-le-feu c'est un premier pas vers un accord de paix. Et pour avoir cet accord de paix, il faut que le Conseil de sécurité veille vraiment sur que le cessez-le-feu soit durable. Ouais. Cela permettrait effectivement à la justice d'avancer. Ces millions de personnes qui ont perdu leur chair, ces millions de personnes qui ont subi des bombardements incessants, ces millions de personnes qui ont subi, ne serait-ce qu'au début de 2024, selon l'ONU, des explosifs de 2500 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de deux bombes nucléaires. Ce sont des crimes de guerre qui ont été commis. C'est une opération immigration systémique. C'est un génocide et c'est crimes internationaux.
Merci.
Maintenant, nécessite l'intervention de la justice internationale, de la Cour pénale internationale,
merci.
Pour qu'il y ait reddition des comptes.
Merci Yosra Fraouez, directrice du bureau Maghreb-Moyen-Orient de la Fédération internationale pour les droits humains.
Organisé par le Centre National du Livre, les Nuits de la Lecture reviennent du 23 au 26 janvier avec une programmation littéraire sur le thème des patrimoines. Bibliothèques, librairies, écoles, universités, musées, théâtres proposent des milliers d'événements partout en France et partout dans le monde pour transmettre le plaisir de lire. Plus d'informations sur nuitsdelalecture.fr, en partenariat avec France Média Monde.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Alors n'hésitez plus à participer à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Plus que quelques jours pour candidater sur App Afrique, appafrique.rfi.fr.